Nous avons choisi ce soir de vous donner un parfum d'Italie en vous lisant des extraits de deux auteurs contemporains dont vous avez sûrement entendu parler. Parce que notre choix s'est porté sur Antonio Tabucchi et Eri De Luca. Alors l'un et l'autre sont tout de même bien connus. Alors nous avions envie de lire quelques fragments de leur œuvre poétique et de vous faire entrer avec nous dans leur univers de fantaisie et de beauté. Donc il s'agit plus de la poésie que de l'œuvre romanesque. Le premier des auteurs que nous présentons s'appelle Antonio Tabucchi et il annonce dans son titre « Rêve des rêves, sogni di sogni » son parti pris onirique puisqu'il a choisi d'évoquer, je cite, « les rêves des artistes qu'il a aimés ». Donc il emprunte la voie des métamorphoses, du fantasme et de l'interprétation. Antonio Tabucchi, je vous rappelle quelques dates, il est né à Pise en 1945 et mort il y a peu de temps, d'ailleurs à Lisbonne en 2012. Il a remporté des prix un peu partout, enfin que ce soit en Italie ou en France, le prix de France Culture. Il est quelqu'un de célèbre de toute façon et fut aussi connu pour pas mal d'articles qui paraissaient régulièrement dans la presse européenne. En fait, c'était un homme de presse, de médias et en même temps un écrivain et un poète. Alors, dans son recueil de courtes nouvelles, vous avez affiché la page de garde, Rêve de rêve, donc Sogni di Sogni en italien. Nous avons retenu l'évocation qu'il fait de 6 auteurs italiens, qu'il a choisi de mettre en scène parce qu'il les admire. 6 sur 20. Sur 20, entre autres, il évoque les gens qu'il aime, tant anglais que portugais, que comment dire, que français, bien entendu, que russe, et comment dire, viennois, puisqu'il parle, il évoque Sigmund Freud, ce qui est assez logique avec l'interprétation des rêves. Alors, on peut dire qu'il en parle parce que ça fait partie de son panthéon personnel. Et Françoise va d'abord vous lire l'incipit de la première nouvelle de ce court recueil qui en compte donc 20. Alors, j'annonce leur titre, Rêve de Dédale, Ovide, Cecco Angiolieri, Le Caravage, Leopardi, Carlo Collodi. À toi.
Sous l'amandier de ta femme, lorsque la première lune d'août surgit de derrière la maison, tu pourras, si les dieux sourient, rêver les rêves d'un autre. Alors, c'est extrait d'une ancienne chanson chinoise.
Alors, il commence avec Dédale. Il suit un ordre chronologique. Et il intitule sa nouvelle « Rêve de Dédale, architecte et aviateur ». Une nuit, il y a des milliers d'années, en un temps qu'il n'est pas possible de calculer avec exactitude, Dédale, architecte et aviateur, fit un rêve. Il rêva qu'il se trouvait dans les entrailles d'un immense palais et qu'il traversait un couloir. Celui-ci débouchait sur un autre couloir et Dédale, fatigué, incertain, avançait en s'appuyant contre les murs. Quand il eut parcouru le couloir, il déboucha sur une petite salle octogonale d'où partaient 8 couloirs. Dédale commença à ressentir une grande anxiété et un désir d'air pur. Il s'enfila dans un des couloirs, mais celui-ci aboutissait à une paroi. Il s'enfila dans un autre, qui lui aussi aboutissait à une paroi. Dédale s'y reprit à 7 fois, jusqu'à ce que, à la 8e tentative, il s'enfila dans un très long couloir, qui, après une série de courbes et de virages à angle droit, débouchait sur un autre couloir. Il s'assit alors sur un escalier en marbre et se mit à réfléchir. Sur les parois du couloir, il y avait des torches allumées qui illuminaient des fresques de couleur bleu ciel représentant des oiseaux et des fleurs. « Moi seul, je peux savoir comment sortir d'ici, » se dit Dédale, « et je ne m'en souviens pas. » Il enleva ses sandales et se mit à marcher pieds nus sur le dallage de marbre vert. Pour se consoler, il entonna une ancienne cantilène qu'il avait bercée dans son enfance. Les arcades du long couloir lui renvoyaient l'écho 10 fois répété de sa voix. « Moi seul, je peux savoir comment sortir d'ici, » se dit Dédale, « et je ne m'en souviens pas. » À cet instant, il déboucha dans une vaste rotonde décorée de paysages absurdes peints à fresques. Il se souvenait de cette salle, mais il ne se rappelait pas pourquoi il s'en souvenait. Il y avait des sièges recouverts d'étoffes luxueuses, et au milieu de la pièce, un ample lit. Sur le bord du lit, un homme svelte était assis, aux manières vives et juvéniles. Cet homme avait une tête de taureau. Il se tenait la tête entre les mains et sanglotait. Dédale s'approcha de lui et lui posa une main sur l'épaule. « Pourquoi pleures-tu ? » lui demanda-t-il. L'homme dégagea la tête de ses mains et le fixa de ses yeux de bête. « Je pleure parce que je suis amoureux de la lune, » dit-il. « Je l'ai vue une seule fois lorsqu'enfant je me mis un soir à une fenêtre, mais je ne peux pas la rejoindre parce que je suis emprisonné dans ce palais. Je me contenterai de m'étendre simplement sur un pré durant la nuit et de me faire caresser par ses rayons. » Mais je suis emprisonné dans ce palais. Cela fait depuis mon enfance que je suis enfermé dans ce palais. Et il recommença de pleurer. Alors Dédale ressentit une grande peine. Le cœur lui battait fort dans la poitrine. « Je t'aiderai à sortir d'ici, » dit-il. L'homme bête leva de nouveau la tête et le fixa de ses yeux bovins. « Dans cette pièce, il y a 2 portes, » dit-il. « Et pour garder chacune des portes, il y a un gardien. » Une porte conduit à la liberté, une porte conduit à la mort. Un des gardiens ne dit que la vérité, l'autre ne dit que des mensonges. Mais je ne sais pas quel est le gardien qui dit vrai et quel est le gardien qui ment, ni quelle est la porte de la liberté et quelle est la porte de la mort. « Suis-moi, » dit Dédale, « viens avec moi. » Il s'approcha d'un des gardiens et lui demanda « Quelle est la porte qui, d'après ton collègue, conduit à la liberté ?» Puis il changea de porte. En effet, s'il avait interpellé le gardien menteur, celui-ci, en modifiant l'indication vraie du collègue, lui aurait indiqué la porte de l'échafaud. Si, au contraire, il avait interpellé le gardien qui disait la vérité, celui-ci, en lui donnant sans la modifier l'indication fausse du collègue, lui aurait indiqué la porte de la mort. Ils franchirent cette porte et parcoururent de nouveau un long couloir. Le couloir était en pente ascendante et débouchait sur un jardin suspendu d'où l'on dominait les lumières d'une ville inconnue. À présent, Dédale se souvenait et il était très heureux de se souvenir. Sous les buissons, il avait caché des plumes et de la cire. Il avait fait pour lui-même, pour fuir ce palais. Avec ses plumes et cette cire, il construisit habilement une paire d'ailes et les appliqua sur les épaules de l'homme bête. Puis il le conduisit à la limite du jardin suspendu et lui parla. « La nuit est longue, » dit-il. « La lune montre sa face et t'attend. Tu peux voler jusqu'à elle. » L'homme bête se tourna et le regarda avec ses yeux de bête. « Merci, » dit-il. « Vas-y, » dit Dédale, et il l'aida à s'élancer. Il regarda l'homme bête qui s'éloignait à grands coups d'aile dans la nuit et qui volait en direction de la lune. Et il volait, et il volait. Revisite du mythe d'Icare. Hein, ouais, Icare, là c'est l'interprétation de Tabouki.
Voilà, moi je vais vous emmener rêver avec Publius Ovidius Naso, c'est-à-dire Ovide. Le poète est né en 43 avant Jésus-Christ à Sulum, dans le centre de l'Italie. Ses œuvres les plus connues sont les Métamorphoses. Son surnom de Naso lui vient de son nez proéminent. Atome, sur la mer Noire. Dans la nuit du 16 janvier après Jésus-Christ, une nuit de gel et de bourrasque, Publius Ovidius Naso, poète et courtisan, rêva qu'il était devenu un poète aimé de l'empereur. Et en tant que tel, Par miracle des dieux, il s'était transformé en un grand papillon. C'était un énorme papillon, grand comme un homme, aux majestueuses ailes jaunes et azur. Et ses yeux démesurés et sphériques de papillon, embrasaient l'horizon entier. On l'avait hissé sur un char en or, aménagé exprès pour lui. Et trois paires de chevaux blancs le conduisaient à Rome. Il cherchait à se tenir debout, mais ses frêles pattes ne réussissaient pas à supporter le poids des ailes, de sorte qu'il était régulièrement contraint de s'affaler sur les coussins avec les pattes qui gigotaient en l'air. Celles-ci étaient ornées de colliers et de bracelets orientaux, et il les montrait avec satisfaction à la foule qui l'applaudissait. Quand ils arrivèrent aux portes de Rome, Ovide s'extirpa des oreillers et, au prix d'un grand effort, s'aidant de ses pattes élancées, il entoura sa tête d'une couronne de laurier. La foule était en extase et beaucoup se prosternaient parce qu'ils le prenaient pour une divinité de l'Asie. Ovide voulut alors les avertir qu'il était Ovide et il commença de parler. Mais un étrange sifflement sortit de sa bouche, une stridulation très aiguë et insupportable qui obligea la foule à se boucher les oreilles avec les mains. « Vous n'écoutez pas mon chant ?» cria Ovide. « C'est le chant du poète Ovide, celui qui a enseigné l'art d'aimer, qui a parlé de courtisanes et de phares, de miracles et de métamorphoses. » Mais sa voix était un sifflement indistinct. La foule s'écartait devant les chevaux. Ils arrivèrent finalement au palais impérial et Ovide, se tenant gauchement sur ses pattes, monta les marches qui le conduisaient au César. L'empereur l'attendait, assis sur son trône et buvait un pichet de vin. « Écoutons ce que tu as composé pour moi, » dit le César. Ovide avait composé un petit poème en vers souple, maniéré et un peu osé, qui allait réjouir le César. « Mais comment les dire, » pensa-t-il, « si sa voix n'était qu'une stridulation d'insectes ?» Il eut alors l'idée de communiquer ses vers au César par des gestes et il commença de secouer mollement ses majestueuses ailes colorées en un ballet merveilleux et exotique. Les rideaux du palais s'agitèrent. Un vent désagréable balaya les pièces et le César, irrité, jeta le pichet sur les dalles. Le César était un homme bourru qui aimait la frugalité et la virilité. Il ne pouvait pas supporter que cet insecte indécent exécutât devant lui un ballet pareillement efféminé. Il battit des mains et les prétoriens accoururent. « Soldat, dit le César, coupez-lui les ailes !» Les prétoriens dégainèrent le glaive et avec adresse, comme s'ils avaient mondé un arbre, ils taillèrent les ailes d'Ovide. Celles-ci tombèrent à terre comme des plumes molles. Et Ovide comprit que sa vie finissait à cet instant. Poussé par une force qu'il sentait être son destin, il fit demi-tour et se balançant sur ses atroces pattes, il retourna sur la terrasse du palais. En dessous de lui, une foule devenue féroce réclamait sa dépouille, une foule avide qui l'attendait les mains pleines de fureur. Alors, Ovide en sautillant, descendit les escaliers du palais.
Vous avez le droit de faire des commentaires. Le malheureux, le pauvre malheureux exilé à Tône. Alors, nous poursuivons notre promenade dans le temps et nous arrivons à l'époque médiévale, à l'époque de Dante, puisqu'il s'agit ici d'un poète contemporain de Dante Alighieri qui s'appelle Cecco Angiolieri, qui était d'ailleurs tout à l'inverse de Dante, vraiment un homme tout à fait, enfin, blasphémateur, très, très brutal, mais talentueux, et qui, au lieu de chanter, disons, la femme idéale, disons, chantait plutôt la grossièreté, disons, des amours, notamment de la fille d'un charron, comme ça. Donc il est connu pour une littérature assez, assez grossière, un peu triviale, dirons-nous. N'empêche que c'était un homme de talent. Alors, ici, il l'intitule « Rêve de Cecco Andreolieri, poète et blasphémateur ». Une nuit de janvier 1309, alors qu'il gisait sur une paillasse du lazaret de Sienne, enveloppé de bandages nauséabonds, Cecco Andreolieri, poète et blasphémateur, fit un rêve. Il rêva que par une torride journée d'été, il passait devant la cathédrale. Sachant que ce lieu était frais, il eut l'idée d'y entrer pour fuir la canicule, mais au lieu de faire une génuflexion et de tremper les doigts dans l'eau bénite, il croisa les doigts en signe de conjuration parce qu'il craignait que ce lieu ne lui portât malheur. Dans la première chapelle à droite se trouvait un peintre en train de peindre une Madone. Le peintre était un jeune homme blond. Il était assis sur une chaise, une palette entre les bras, dans une attitude de repos. Le tableau sacré était presque fini. Il s'agissait d'une Vierge aux yeux obliques et au sourire imperceptible qui tenait l'enfant Jésus sur ses genoux, dans les plis de ses vêtements. Le peintre le salua avec amabilité et Cecco répondit par un éclat de rire. Puis il se mit à observer le tableau et il éprouva un grand malaise. L'expression de cette femme altière l'indisposait. Elle regardait le monde avec superbe, comme si elle avait eu un grand mépris des choses terrestres. Ce fut plus fort que lui. Il s'approcha du tableau et, tendant le bras droit en avant, il lui fit un geste obscène. Le jeune peintre bondit de sa chaise et tenta de l'arrêter, mais Cecco, comme possédé, se débattit et fit un autre geste obscène du bras gauche. Alors la Vierge bougea les yeux, comme si cela avait été des yeux humains, et le foudroya du regard. Cecco ressentit un étrange frisson à travers tout le corps. Il commença de se rétracter et de rapetisser, vit que ses membres se couvraient de poils noirs et se rendit compte qu'une longue queue lui poussait entre les jambes. Il chercha à hurler, mais au lieu d'un hurlement, c'est un épouvantable miaulement qui lui sortit de la bouche. Et, petit et furibond aux pieds du peintre, il prit conscience qu'il était devenu un chat. Il fit un bond en avant et un en arrière, comme rendu fou par la monstrueuse prison de ce nouveau corps, puis il grinça des dents furieux et sortit de l'église en miaulant sauvagement. Entre-temps, le soir était tombé sur la place. Cecco rasa d'abord les murs, puis il regarda autour de lui pour voir si quelqu'un lui prêtait attention. Mais la place était presque déserte. À l'angle, près d'une taverne, un groupe de jeunes gens à l'air de fripouille avait emporté des pichets à l'extérieur et buvait. Cecco Andreolieri eut l'idée de passer devant la taverne parce qu'il avait faim et qu'il allait peut-être trouver quelques croûtes de fromage. Il longea le mur de la taverne, passa devant la porte qui était illuminée par deux torches accrochées au chambranle. À cet instant, un des jeunes vauriens l'appela en faisant le typique bruit de lèvres réservé aux chats et lui montra une couenne de jambon. Cecco se précipita à ses pieds et prit la couenne dans la bouche. C'est alors que les jeunes vauriens l'attrapèrent en le serrant fortement et le portèrent à l'intérieur de la taverne. Cecco tenta de mordre et de griffer, mais les voyous le tenaient bien solidement. L'un d'eux lui tenait la bouche fermée, les autres lui immobilisaient les pattes de sorte qu'il ne put rien faire. Quand ils furent dans la taverne, les jeunes vauriens prirent le récipient de poids qui servait pour les torches et lui enduisirent minutieusement le poil d'onguent. Puis au moyen d'une torche, ils l'enflammèrent et le rendirent à la liberté. Cecco Andreolieri, transformé en une boule de feu, jaillit hors de la taverne en miaulant terriblement. Il se lança contre les murs des maisons. Il se roula par terre, mais le feu ne s'éteignait pas. Il se mit à parcourir les petites ruelles obscures de Sienne comme un éclair, les illuminant sur son passage. Il ne savait pas où aller, se laissait emporter par son instinct. Il tourna à deux reprises, parcourut trois rues, traversa une place, monta des escaliers, arriva devant un palais. Là vivait son père. Tchéco monta le grand escalier, passa devant les domestiques épouvantés, entra dans la salle à manger où son père était en train de dîner et hurla « Mon père, je suis devenu un feu, je vous en prie, sauvez-moi !» Et à ce moment précis, Tchéco Angiolieri se réveilla. Les docteurs lui enlevaient les bandages et son corps, recouvert par les terribles plaies du feu de Saint-Antoine, le brûlait comme une flamme. C'est beau.
Bien, moi je vais vous emmener rêver avec un autre personnage, puisqu'il s'agit de Michelangelo Merisi, dit le Caravage. C'était un peintre italien qui est né en 1571. Sa peinture révolutionnaire se caractérise par son réalisme, son érotisme et sa technique du clair-obscur. La nuit du 1er janvier 1599, alors qu'il se trouvait dans le lit d'une prostituée, Michelangelo Merisi, dit le Caravage, peintre héros et homme irascible, rêva que Dieu lui rendait visite. Dieu lui rendait visite par l'intermédiaire du Christ et pointait son doigt sur lui. Michelangelo était dans une taverne, il jouait à l'argent. Ses compagnons étaient des crapules, certains étaient ivres. Et lui, il n'était pas Michelangelo, le célèbre peintre, mais un client quelconque, un malandrin. Lorsque Dieu le visita, il était en train de blasphémer le nom du Christ et il riait. « Toi ?» dit sans rien dire le roi du Christ. « Moi ?» demanda avec stupeur Michelangelo. « Mais moi, je n'ai pas la vocation d'être un saint. Je ne suis qu'un pécheur et je ne peux pas être choisi. » Cependant, le visage du Christ demeurait inflexible. Il n'y avait pas moyen d'y échapper. Et sa main tendue ne laissait planer aucun doute. Michelangelo baissa la tête et regarda l'argent sur la table. « J'ai violé, dit-il, j'ai tué. Je suis un homme qui a du sang sur les mains. » Le garçon du bistrot apporta un plat de haricots et du vin. Michelangelo Merisi se mit à manger et à boire. Autour de lui, personne ne bougeait. Lui seul remuait main et bouche comme un fantôme. Le Christ était aussi immobile et tendait sa main figée, le doigt pointé. Michelangelo se leva et le suivit. Ils arrivèrent dans une ruelle louche et Michelangelo se mit à uriner dans un coin tout le vin qu'il avait bu ce soir-là. « Dieu, pourquoi me cherches-tu ? » demanda Michelangelo au Christ. Le fils de l'homme le regarda sans répondre. Ils se promenèrent le long de la ruelle et débouchèrent sur une place. La place était déserte. « Je suis triste, » dit Michelangelo. Le Christ le regarda et ne répondit pas. Il s'assit sur un banc de pierre et enleva ses sandales. Il se massa les pieds et dit « Je suis fatigué, je suis venu à pied depuis la Palestine pour te chercher. » Michelangelo était en train de vomir, appuyé à l'angle d'un mur. « Mais moi, je suis un pécheur, cria-t-il, tu ne dois pas me chercher. » Le Christ s'approcha et lui toucha un bras. « C'est moi qui t'ai fait peindre, dit-il, et de toi, je veux une peinture. Après quoi, tu pourras suivre la route de ton destin. » Michelangelo se nettoya la bouche et demanda « Quelle peinture ? » « La la visite que je t'ai faite ce soir dans la taverne. Sauf que toi, tu seras Mathieu. D'accord, fit Michelangelo, je ferai cela. Et il se retourna dans le lit. À cet instant, la prostituée l'embrassa tout en ronflant.
Donc vous avez la vocation de Saint Mathieu là, sur les yeux, vous avez reconnu. Alors, on remonte encore au cours des siècles, dans notre choix des auteurs italiens. Et nous arrivons à un merveilleux poète du XIXe siècle, connu des romantiques français, Leopardi. Leopardi, voilà. Leopardi. Et j'ai lu une partie de la nouvelle, et puis pour que vous ayez quand même une idée de la beauté de la qualité de sa poésie, je vous lirai en accord avec le texte, si vous voulez, mais qui n'est pas dans le texte, un poème à une femme dont il parle, qui s'appelle Sylvia, qui est une femme rêvée, dont je vous lirai un extrait en italien que je traduirai. Alors, Leopardi, donc, est connu de tous les amateurs, je crois, de poésie italienne. Rêve de Giacomo Leopardi, poète et lunatique. Une nuit des premiers jours de décembre 1827, dans la belle ville de Pise, Via della Fagiola, dormant entre deux matelas pour se protéger du terrible froid qui étreignait la ville, Giacomo Leopardi, poète et lunatique, fit un rêve. Il rêva qu'il se trouvait dans un désert et qu'il était berger. Mais au lieu d'avoir un troupeau qui le suivait, il était commodément assis dans une calèche traînée par quatre brebis d'une éclatante blancheur, et ces quatre brebis étaient son troupeau. Le désert et les collines qui le bordaient étaient d'un très fin sable d'argent qui brillait comme la lumière des lucioles. C'était la nuit, mais il ne faisait pas froid, au contraire. Cela semblait une belle nuit d'arrière-printemps, de sorte que Leopardi enleva la cape dont il était couvert et la posa sur l'accoudoir de la calèche. « Où m'emmenez-vous, mes chères petites brebis ? » demanda-t-il. « Nous t'emmenons en promenade, » répondirent les quatre brebis. « Nous sommes des petites brebis vagabondes. »« Mais quel est ce lieu ?» demanda Leopardi. « Où nous trouvons-nous »« Tu le découvriras bientôt, » répondirent les brebis, « quand tu auras rencontré la personne qui t'attend. »« Qui est cette personne ?» demanda Leopardi. « J'aimerais bien le savoir. » « Hé hé !» rirent les brebis en échangeant des regards. « Nous ne pouvons pas te le dire. Cela doit être une surprise. » Leopardi avait faim. Il aurait eu envie de manger un gâteau, une belle tarte aux pignons. Voilà précisément ce dont il avait envie. « J'aimerais un gâteau, » dit-il. « N'y a-t-il pas un endroit dans ce désert où l'on puisse acheter un gâteau ?»« Tout de suite après cette colline, » répondirent les brebis. « Aie un peu de patience. » Ils arrivèrent au bout du désert et contournèrent la colline au pied de laquelle se trouvait une boutique. C'était une belle pâtisserie, tout en cristal, qui étincelait d'une lumière d'argent. Leopardi regarda la vitrine, indécis quant à son choix. Au premier rang, il y avait les tartes de toutes les couleurs et de toutes les dimensions. Tarte verte à la pistache, tarte vermeille à la framboise, tarte jaune au citron, tarte rose à la fraise. Puis il y avait les massepains en forme drôle et appétissante, modelés en pommes et en oranges, modelés en cerises ou en forme d'animaux. Enfin venaient les sabayons crémeux et denses, avec une amande par-dessus. Leopardi appela le pâtissier et acheta trois gâteaux, une tourte aux fraises, un massepain et un sabayon. Le pâtissier, un petit homme tout en argent, avec des cheveux d'une blancheur éclatante et des yeux bleus, lui donna les gâteaux et comme cadeau une boîte de chocolat. Leopardi remonta dans la calèche et tandis que les brebis se mettaient de nouveau en chemin, il commença de déguster les choses exquises qu'il avait achetées. La route avait pris de la pente à présent. Elle grimpait sur la colline. Et comme c'était étrange, ce terrain-là aussi brillait. Il était translucide et envoyait une lueur d'argent. Les brebis s'arrêtèrent devant une petite maison qui étincelait dans la nuit. Léopardi, comprenant qu'il était enfin arrivé, descendit à terre, prit la boîte de chocolat et entra dans la maison. À l'intérieur, une jeune fille était assise sur une chaise et brodait au tambour. « Avance, je t'attendais, » dit la jeune fille. Elle se tourna, lui sourit, et Léopardi la reconnut. C'était Sylvia. Sauf qu'à présent, elle était toute en argent. Elle avait les mêmes apparences qu'autrefois, mais elle était en argent. « Sylvia, chère Sylvia, » dit Léopardi en lui prenant les mains. « Comme il est doux de te revoir. Mais pourquoi es-tu tout en argent ?»« Parce que je suis une sélénite, » répondit Sylvia. « Quand on meurt, on arrive sur la lune et on devient ainsi. » « Mais pourquoi suis-je, moi, ici ?» demanda Léopardi. « Je suis peut-être mort ?»« Celui qui est là n'est pas toi, » dit Sylvia. « C'est seulement ton image. Toi, tu es encore sur la terre. »« Et depuis ici, on peut voir la terre ?» demanda Léopardi. Sylvia le conduisit à une fenêtre où se trouvait une lunette. Léopardi approcha l'œil de la lentille et vit aussitôt son palais. Il le reconnut. C'était bien son palais. Et il y avait une faible lumière qui sortait d'une fenêtre. Il s'efforça de regarder à l'intérieur de la fenêtre et vit une chambre modeste avec une commode et une table sur laquelle était posé un cahier à côté duquel se consumait un bout de chandelle. Dans le lit, il se vit lui-même qui dormait entre deux matelas. « Suis-je mort ? » demanda-t-il à Sylvia. « Non, » dit Sylvia, « tu es seulement en train de dormir. » Et tu rêves à la lune. Alors voilà ce qu'il a écrit en évoquant cette Sylvia fantasmée. C'est un très long poème dont je vous lis simplement quelques extraits. Rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi. E tu, lieta e pensosa, il limitar di gioventù salivi. Che pensieri soavi, che speranze, che corri, oh Silvia mia. Quale allora ci apparia la vita umana e il fatto? Quando sovviemi di cotanto speme, mi affetto mi preme, acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. Oh natura, perché non rendi poi quel che prometti allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? C'est un italien peu compréhensible pour nous. Pas tellement, oui. C'est vraiment 1820. Alors voilà la traduction possible. Sylvia. Te souvient-il encore de cette vie mortelle, quand la beauté brillait dans tes yeux fugitifs et riants, et que, pensive et gaie, tu gravissais le seuil de la jeunesse? Quelles pensées de douceur, quels espoirs, et quel cœur, ma Sylvia! Telle alors nous paraissait la vie humaine et le destin. Quand je revois une telle espérance, une passion m'oppresse, acerbe et désolée, j'en reviens à souffrir de ma détresse. Ô nature, pourquoi ne tiens-tu pas ce que tu promettais alors? Pourquoi te moques-tu de tes enfants? Poète qui est une vie très malheureuse.
Bien, et bien moi pour le dernier rêve, je vous emmène avec Carlo Collodi. Carlo Collodi, de son vrai nom Carlo Lorenzini, est né en 1826. Il est l'auteur du chef-d'œuvre de la littérature enfantine mondialement connue, Pinocchio. La nuit du 25 décembre 1882, dans sa maison de Florence, Carlo Collodi, écrivain et censeur de théâtre, fit un rêve. Il rêva qu'il se trouvait sur une petite barque de papier au milieu de la mer et qu'il y avait une tempête. Mais la petite barque de papier résistait. C'était une petite barque têtue, avec deux yeux humains et aux couleurs de l'Italie que Collodi aimait tant. Une voix lointaine depuis le surplomb de la côte criait « Carlino, Carlino, reviens sur la rive !» C'était la voix de l'épouse qu'il n'avait jamais eue, une douce voix féminine qu'il appelait d'un pleur de sirène. Ah, comme il aurait voulu s'en retourner, mais il n'y arrivait pas, les flots étaient trop forts et la petite barque naviguait au gré de la mer. Puis, tout à coup, il vit le monstre. C'était un énorme requin à la gueule ouverte qui le guettait, qui l'étudiait, qui l'attendait. Collodi essaya de manœuvrer le gouvernail, mais le gouvernail était en papier et il était trempé. On ne pouvait désormais plus s'en servir. C'est ainsi qu'il se résigna à filer droit vers la gueule du monstre et par peur, il se boucha les yeux avec les mains, se leva et cria « Viva l'Italia !» Qu'est-ce qu'il faisait sombre dans le ventre du monstre. Collodi commença de marcher à l'aveuglette. Il trébucha sur une chose dont il ignorait la nature et en palpant, il comprit que c'était un crâne. Puis il buta contre les tables et il comprit qu'une autre barque avait fait naufrage avant lui dans la gueule du monstre. Maintenant, il se déplaçait avec plus de désinvolture grâce à la faible lueur qui provenait de la bouche ouverte du requin. Avançant à tâtons, il se heurta le genou contre une caisse en bois. Il se plia pour la toucher des mains et se rendit compte qu'elle était pleine de bougies. Par chance, il avait encore son briquet avec lequel il fit aussitôt des étincelles. Il alluma deux bougies et les ayant pris à la main, il se mit à regarder autour de lui. Il se trouvait sur le pont d'un navire qui avait fait naufrage dans le ventre du monstre. Le gaillard d'arrière était plein de squelettes et un drapeau noir à tête de mort avec les deux tibias croisés flottait au grand mât. Collodi poursuivit son exploration et descendit un petit escalier. Il trouva tout de suite la cambuse qui était remplie de rhum. C'est avec une grande satisfaction qu'il ouvrit une bouteille et but à la régalade. À présent, il se sentait mieux. Suffisamment rassuré, il se leva et se guidant à la lueur des chandelles, il sortit du vaisseau. Le ventre du monstre était glissant, plein de petits poissons morts et de crabes. Collodi avança en pataugeant dans l'eau basse. Il vit une petite lumière au loin, une timide clarté qui lui semblait être une invitation. Il s'y dirigea. Des squelettes, des vaisseaux naufragés, des barques défoncées et d'énormes poissons morts passaient près de lui. La clarté se faisait plus proche et Collodi aperçut une table. Deux personnes étaient assises autour de la table, une femme et un enfant. Avançant timidement, Collodi vit que la femme avait les cheveux turquoises et l'enfant un chapeau en mie de pain. Il courut vers eux et les embrassa. Et eux aussi l'embrassèrent, et ils rirent, et ils se caressèrent mutuellement les joues, et ils se firent mille cajoleries. Et ils ne parlèrent point. Tout à coup, la scène changea. À présent, ils ne se trouvaient plus dans le ventre du monstre, mais sous une tonnelle. Autour d'eux, c'était l'été. Ils étaient attablés, c'était une maison sur les collines de Brescia. Les cigales stridulaient, tout était immobile dans la chaleur de midi. Ils buvaient du vin blanc et mangeaient des melons. Assis, un peu à l'écart sous la tonnelle, un chat et un renard les regardaient avec des yeux bien doux. Et Collodi, d'un ton courtois, leur dit « Je vous en prie, servez-vous. »
Voilà, fin de la première partie.
Fin de nos rêves.
Fin des rêves. Je vais prendre bien. Tu veux de l'eau. Alors la deuxième partie est d'une tonalité tout à fait différente. Et c'est un tout. Alors nous avons fait des coupes, quoi.
Bah oui. Nous allons donc vous parler d'Héry de Luca. Il est né en 1950 dans une famille bourgeoise napolitaine ruinée par la guerre, avec une éducation rigide et des parents qui rendent l'atmosphère familiale oppressante. C'est le moins qu'on puisse dire. En 1968, dès ses études secondaires terminées, il quitte la maison familiale et s'engage dans l'action politique révolutionnaire. Il participe aux luttes ouvrières non violentes. En 1980, prennent fin ses 12 années de lutte politique. Il sera ouvrier, solidaire, itinérant. Il travaille même en France sur les chantiers, dans la banlieue parisienne. Puis il s'engage dans des actions humanitaires. De 1982 à 1995, il sera chauffeur de camion dans les convois humanitaires en Yougoslavie. Il commence à écrire en 1989 son premier roman, qui paraîtra en 1992 sous le titre de « Une fois, un jour ». Il obtiendra le prix Femina étranger en 2012 avec son roman « Montée d'idiot ». C'est un alpiniste chevronné. Il a gravi au Népal l'Annapurna avant qu'un infarctus lui interdise les courses en montagne. Son amour pour la montagne lui a inspiré le poids du papillon, d'une beauté sauvage, un court roman splendide et féroce comme la nature, écrit Bernard Pivot, qui ajoute que le poids du papillon pèse peu dans la main et beaucoup dans le cœur et la mémoire.
En italien, cela s'appelle « Il peso della farfalla ». Alors, c'est très, très bien traduit. Alors, on s'embarque pour une autre aventure. Pardon ? Alors, le traducteur, pour le premier, c'est Bernard Comment.
Et pour le deuxième, c'est Daniel Valla.
Voilà, une femme, Daniel Valla. Et Bernard Comment pour Tabucchi. Ouais. Sa mère avait été abattue par un chasseur. Dans ses narines de petit animal se grava l'odeur de l'homme et de la poudre à fusil. Orphelin, avec chasseur, sans un troupeau voisin, il apprit tout seul. Adulte, il faisait une taille de plus que les mâles de son espèce. Sa sœur fut emportée par un aigle un jour d'hiver et de nuages. Elle s'aperçut qu'il planait au-dessus d'eux, isolé sur une pâture au sud, là où subsistait un peu d'herbe jaunie. Sa sœur voyait l'aigle, même sans son ombre, à terre, sous un ciel, couché. C'était sans issue pour l'un des deux. Sa sœur se mit à courir, donnant l'avantage à l'aigle, et elle fut attrapée. Resté seul, il grandit sans frein ni compagnie. Quand il fut prêt, il partit à la rencontre de la première harde, défia le mâle dominant et fut vainqueur. Il devint roi en un jour et en un duel. Les chamois ne vont pas jusqu'au bout dans un combat. Ils décident du vainqueur au premier coup. Ils ne se cognent pas de front comme les bouquetins et les chèvres. Ils penchent la tête vers le sol et tentent de glisser leurs cornes légèrement recourbées sous le flanc de l'autre. Si la reddition n'est pas immédiate, ils accrochent le ventre et le déchirent en tirant le cou en arrière. Ils arrivent rarement à cette fin. Avec lui, ce fut différent. Il avait grandi sans règles et il les imposa. Le jour du duel, ils avaient au-dessus d'eux le magnifique ciel de novembre et par terre des mottes de neige fraîche, encore peu abondantes. Les femelles sont en chaleur avant l'hiver et mettent bas au milieu du printemps. En novembre, les chamois se défient. Il entra à l'improviste dans le champ du troupeau, surgissant d'un bond du haut d'un rocher. Les femelles s'enfuirent avec les petits de l'année. Le mâle resta et racla furieusement l'herbe de ses sabots antérieurs. En haut se massèrent des ailes noires de corneilles et des croassements. Planant dans les courants ascensionnels, elles regardèrent le duel ouvert comme un livre au-dessous d'elles. Le jeune mâle solitaire avança, tapa du sabot par terre et souffla sèchement. Le choc fut violent et bref. Les cornes de l'attaquant s'ouvrirent une brèche dans la défense et sa corne gauche accrocha le ventre de son adversaire. Elle le déchira dans un craquement et plus haut, les ailes claquèrent avec fracas. Les oiseaux acclamaient le vaincu qui leur était destiné. Le chamois éventré s'enfuit, perdant ses viscères pour chasser. Les ailes quittèrent le ciel pour descendre à terre les dévorer. La fuite du vaincu se brisa d'un coup. Il buta et tomba sur le flanc. Sur la corne ensanglantée du vainqueur se posèrent des papillons blancs. L'un d'eux y resta pour toujours, pour des générations de papillons, pétales battant au vent sur la tête du roi des chamois durant les saisons d'avril à novembre.
Ce matin de novembre, il se réveilla fatigué et sut que c'était la dernière saison de sa suprématie. Ses cornes allaient se rendre face à celles d'un de ses fils plus résolus. Il avait déjà dû en blesser un au ventre, sans aller plus loin, un qui piaffait. Un d'entre eux répandrait ses boyaux sur l'herbe et il ne serait plus qu'une carcasse vaincue et vidée. Il ne devait pas finir ainsi. Mieux valait disparaître cet hiver-là et qu'on ne le retrouve pas. Il ne dormait pas avec le troupeau, pas même pendant l'automne de l'accouplement. Il avait plusieurs refuges pour la nuit, sous les pins de montagnes creux, dans des grottes, sur de hauts rochers friables où ni l'homme ni son odeur ne pouvaient monter. Il descendait vers la harde à des heures différentes avec le brouillard, avant l'aube, après le coucher du soleil. Il ne donnait à personne la chance de le prévoir. À son arrivée, les femelles allaient à sa rencontre et les jeunes mâles pliaient le genou pour s'incliner. Ce jour de novembre, le roi reconnut son déclin. Son cœur battait à moins de 200 coups minute. Cette poussée qui donne de l'oxygène aux élans en montée et les rend plus légers. Les sabots des chamois sont les quatre doigts d'un violoniste. Ils vont à l'aveuglette sans se tromper d'un millimètre. Ils giclent sur les apics, jongleurs en montée, acrobates en descente. Ce sont des artistes de cirque pour le public des montagnes. Les sabots des chamois s'agrippent à l'air. Le cale, en forme de coussinet, sert de silencieux quand il veut. Sinon, l'ongle divisé en deux est une castagnette de flamenco. Les sabots des chamois sont quatre as dans la poche d'un tricheur. Avec eux, la pesanteur est une variante du thème, pas une loi. Il les posa à l'aube dans un brouillard épais, ne pas voir le sol, et les trouva mal assurés. Aussi attendit-il que son cœur pousse ses battements jusqu'à la pointe de ses ongles et que le jour croisse en même temps que les coups. Il ne voulait pas céder. Baisser sa corne gauche devant un mâle plus jeune, aux forces seulement plus neuves. Il flaira l'horizon pour savoir où ne jamais plus revenir, ni se laisser surprendre. Le jour au franc soleil sécha vite le brouillard. Un ruisseau de lumière venant de l'est parcourait le troupeau qui s'y abreuvait, museau levé. Ils étaient bien des mètres au-dessous de lui. De son abri à l'ombre, il en vit la force, la quantité qui supporte les pertes. Ils n'étaient pas courageux, ils étaient nombreux, valeur qui donne de la force aux plus faibles. C'étaient ses fils, sortis des poussées de ses flancs. Il n'en était pas fier, il avait fait ce que voulait la vie. Il pouvait s'exposer en pleine lumière.
L'odeur de l'homme et de son huile lui arriva dans la montée. Elle appartenait à l'assassin de sa mère. C'était lui. Il montait pour abattre tout seul les chamois. Il cherchait leur roi depuis des années. Il donna un coup de patte dans une pierre et l'envoya cogner loin au-dessus des éboulis escarpés. Le choc vit rouler une petite salve de cailloux. Au bout de la pente, l'homme se tourna pour la repérer plus haut, pour remonter à la bête qu'il avait déclenchée. Il regarda du mauvais côté. Dans l'ombre, le roi des chamois se moquait de lui depuis des années.
L'homme avait déjà un certain âge. Une grande partie de sa vie a monté braconné en montagne. Il s'était retiré pour faire ce métier après une jeunesse passée dans la ville avec les révolutionnaires jusqu'à la débandade. Pendant une période du siècle dernier, la jeunesse s'était donné une loi différente de celle qui existait. Elle avait cessé d'apprendre des adultes, aboli la patience. En montagne, elle grimpait sur des cimes nouvelles. En plaine, elle se donnait des noms de bataille. Elle voulait être une primeur de temps opposé, déclarer fausse toute monnaie. Elle n'avait pas droit à l'amour. Bien peu d'entre eux eurent des enfants pendant les années révolutionnaires. On n'a plus jamais vu une jeunesse s'acharner à ce point pour tenter de renverser son assiette. Une assiette à l'envers ne contient presque rien, mais elle a une base plus large et elle est plus stable. Il s'était retiré dans les montagnes de sa naissance et avait recommencé à braconner. Il avait vécu dans des cabanes de bergers abandonnées, des bivouacs d'alpinistes. Puis, quelqu'un lui avait cédé un abri en pierre tout en haut d'un bois et il l'avait adapté à ses besoins. Il était composé d'une seule pièce, du feu et de l'eau. Le seul confort, une double fenêtre au milieu de laquelle il mettait de la mousse qui absorbe le vent. Il chargeait les chamois sur son dos, les abattant du haut des rochers effrayants à voir, le long des sentiers invisibles foulés par leurs légers sabots, juste une trace au crayon au-dessus des précipices. Il avait peu de rapport avec le village voisin, mais il connaissait tout le monde, et ce qui le protégeait tout de même. Chaque village a son saint et son bandit. Il n'était pas sous mandat d'arrêt, il était braconnier, mais aucun garde de chasse, n'avait réussi à le cueillir sur le fait. Il arpentait les montagnes avec un 300 magnum et une balle de 11 grammes. Il ne laissait pas l'animal blessé. Il l'abattait d'un seul coup. Il savait arriver du côté du vent. Il restait sans bouger pendant des heures dans le froid glacial. Il montait, descendait, escaladait avec agilité. Ce jour de novembre, il se leva les jambes lourdes. Au réveil, il sentait déjà le poids d'une fin de journée. Ce fut le soleil qui le poussa à prendre son sac. Son arme était près de son lit depuis la veille. Celui qui vit seul doit savoir se tenir prêt. Il sortit, le café tout fumant dans la tête.
Le soleil de novembre couvrait tout alentour d'une odeur d'homme, une graisse rance que même les crottes de chamois ne pouvaient camoufler. L'air de novembre dénonce l'homme à toute la montagne. Il sortit. Une allure endurcie accompagnait ses pas. Sa douleur au genou le prévenait du changement de saison. La neige, celle qui se fixe, allait arriver. La fumée du café se mêla aux derniers champignons du bois. Il n'allait pas les cueillir, il les ignorait. Il devait monter à 2300 mètres en tournant à mi-montagne. Il était fatigué. Un mois plus tôt, il avait abattu son 306e chamois. C'était un mâle, robuste, blessé par une entaille au ventre. Elle n'était pas profonde. Le coup n'avait pas atteint le paquet de boyaux. Le roi des chamois était sûrement encore le chef du royaume pour avoir battu un mâle aussi fort. Il l'avait vu deux fois avec ses jumelles. Deux cornes, les plus belles qui aient jamais poussé sur une tête, et une barbe sur le dos dressée en l'air comme la queue d'un coq. Cette blessure au ventre lui avait appris que le roi était encore en vie. Ce devait être sa dernière saison. Il ne restait plus assez de temps pour le vaincre. Il disparaîtrait, caché dans un trou pour mourir. Le roi des chamois. C'était drôle qu'on l'appelle ainsi dans la vallée, lui, le chasseur. Il laissait dire, mais il préférait pour lui le titre de voleur de bétail. Il volait au maître de tout, qui laissait faire, mais qui tenait ses comptes. Chaque jour pouvait être celui du règlement du solde de la somme totale. Même ce jour tiède et rapide de novembre. Il avait vécu au crochet du maître. Il s'était servi là où il trouvait table mise, sur des appiques, dans la neige où l'on s'enfonçait jusqu'à la taille, au milieu des rochers pointus et des couloirs creusés par les éboulements.
Le roi des chamois Il savait bien à qui revenait ce titre. Le vrai avait été meilleur que lui, plus fort et plus précis. Lui était un roi des chamois, juste bon pour les hommes. Ce jour-là, il s'appuyait sur une canne en bois de charme pour supporter sa marche. L'air montait, tiède, faisant flotter les ailes immobiles et apportant une odeur d'homme droit dans les narines des chamois. Il devait s'en approcher en montant plus haut qu'eux. Les bêtes l'avaient senti. Elles savaient qu'il était là et savaient aussi qu'elles se trouvaient dans une pâture à découvert difficile d'accès. Si l'odeur s'intensifiait, elles s'égayeraient vers le sommet. L'homme franchit 200 mètres d'air au-dessous du troupeau. Il ne pouvait le voir à tant de sauts de roche plus haut. Aucun sens ne lui donnait la certitude qu'il y était. L'espèce humaine est dotée de bien peu de sens. Elle les améliore grâce au résumé de l'intelligence. Le cerveau de l'homme est un ruminant. Il remâche les informations des sens, les combine en probabilité. L'homme est ainsi capable de préméditer le temps, de le projeter. C'est aussi sa damnation, car il en retire la certitude de mourir. Ce jour de novembre, l'homme savait qu'il frôlait le terme. Il suivait peut-être le troupeau pour la dernière ou l'avant-dernière fois. L'homme ne supporte pas la faim. Une fois qu'il la connaît, il pense à autre chose. Il espère s'être trompé dans ses prévisions. Il était normal pour lui de finir dans les rochers comme un roi des chamois, mais un roi telet. Il sourit, car il savait souffler le cri de l'oiseau dans son harmonica. Un des refuges du roi des chamois se trouvait sous un pin mugot qu'il avait lui-même creusé de ses cornes et de ses pattes. Il gardait ses expériences pour lui. Ayant grandi sans troupeau, il ne savait pas transmettre. Il pouvait répandre dans sa descendance sa force et sa taille imposante, rien d'autre. Sa puissance venait de deux aliments différents. Il creusait pour mordre les racines, et puis il avait appris à manger la touffe sommitale des mélèzes et des sapins. Il cherchait dans des endroits inconnus à son espèce, sous terre et en hauteur. Les chamois mangent ce qui est à la portée de leur museau. Lui avait trouvé autre chose, la touffe du sommet des arbres. Mais il n'avait pas un coup de girafe pour les atteindre. Il avait appris à suivre à distance les bûcherons. Il coupait la plante, débarrassait le tronc des branches latérales et laissait la pointe, car le sommet de l'arbre sentait la fin de la lymphe et suçait toute celle du tronc qui séchait plus vite ainsi. Le roi des chamois allait manger la touffe du sommet qui contenait l'ultime concentré de la vie de l'arbre.
Dans chaque espèce, ce sont les solitaires qui tentent de nouvelles expériences. Ils forment un quota expérimental qui va à la dérive. Derrière eux se referme la trace ouverte. Il allait aussi dans les bois, détacher de ses lèvres les fleurs violettes et les jaunes qui séduisent les abeilles. Il aimait la réponse qui fleurit sur les parois à pic, se contentant d'un ongle de terre. Sur sa corne gauche s'agitaient, tels de petits drapeaux, les ailes d'un papillon blanc. Tandis que le jour passait de l'est au sud, le sang du roi réchauffa les ongles de ses sabots. Il en éprouva l'équilibre en soulevant ses pattes antérieures, restant sur celles de derrière, position peu commode pour une bête pourvue de quatre appuis. L'espèce humaine avait libéré ses mains en se dressant sur ses pieds, mais elle avait perdu en rapidité. Dans l'escalade, elle se retrouvait à quatre pattes, mais en analphabète. Le roi des chamois reposa ses pattes antérieures à terre. Sa fatigue dépendait du cœur, non pas des quatre leviers prodigieux. Il sortit de sa tanière au creux du pin, en sentant l'odeur de l'homme monter avec les courants ascensionnels, odeur de l'assassin de sa mère et des siens.
L'homme s'allongea sur les cailloux au-dessus du précipice. Il tendit son cou au-delà du bord, renifla l'air que respiraient les chamois. Il fut surpris de sentir le parfum d'amande des glandes venant de si bas. L'essence donne une dernière acuité dans le temps final de la vie, une flambée. Il le savait, et ajouta l'étrange capacité de son odorat aux fatigues de ces derniers jours. Ce n'était pas l'effort qui les soufflait, mais un début de fléchissement. Étendu sur les pierres, il prenait sa place de suprématie. Il épiait sans être vu. Au-dessus de lui se perdait le cri des oiseaux. Il prévenait sûrement pas les chamois de la présence de l'intrus. Les oiseaux au-dessus de lui étaient du côté de la chasse. Le canon du fusil avait ramassé des fils d'araignées dans les passages. Dans sa position encore à l'ombre, l'homme voyait briller au vent un fil de toile d'araignée collé sur le canon de son fusil. Un papillon blanc alla se poser dessus. Il le chassa d'un léger mouvement pour l'enlever sans le toucher. Son vol saccadé en zigzag était l'opposé de la balle en plomb chargée dans l'obscurité du canon brillant avec sa ligne droite vers la grosse cible. Un papillon sur un fusil le tourne en dérision. Sa visée tournée en ridicule par le vol saccadé qui, où qu'il tombe, porte en lui le centre atteint. Là où se pose le papillon, c'est le centre. L'homme le chassa d'un geste lent et d'un souffle de rejet.
Il rencontrait aussi l'aigle qui descend récupérer le petit du chamois qu'il a fait tomber. L'aigle qu'on dérange reprend son vol, lent au décollage. Il ne tirait pas sur cette merveilleuse créature. Quand il était jeune, il était allé voir un aiglon dans son nid, dans la vallée où on lui donnait un bon prix. Le nid n'est pas sur les sommets, l'aigle n'est pas fou, il le fait à mi-paroi. Il va chasser plus haut et redescend en portant sa proie capturée. Quelle puissance dans ses pattes! Elles ouvrent la poitrine du chamois et la déchirent pour manger son cœur.
C'est le mois de novembre. Devant lui, l'hiver à venir immense à accueillir. Cette année, il a songé à descendre dans la vallée, passer l'hiver au village. C'est la première fois que lui vient cette pensée dans ses pas en montée. L'homme donne un coup de pied à une petite pomme de pin mugot. Sans lui, la cabane s'écroulerait de mélancolie.
Vieillir et ne pas presser le pas. Ne pas s'appuyer à un arbre, à une épaule. Couper la même quantité de bois d'un automne à l'autre. Il avait son tas de l'année précédente, bien sec. Il venait de couper le bois frais à laisser sécher. Habiter tout en haut du bois suppose la fatigue de remonter cette charge. Il lui en fallait 70 quintaux, coupés et carrés, mis dans la hotte et remontés. Ce mois d'octobre, il avait fait plusieurs voyages pour alléger le poids sur son dos. Il se disait que l'année suivante, il commencerait sa provision dès septembre. Les vieux doivent rallonger les temps de travail alors que les journées raccourcissent en même temps que leurs forces. Il était essoufflé pendant cette coupe d'octobre. Il s'étendait souvent sur le sol pour regarder au ciel l'ébouriffement enfantin des nuages. Il se mettait à penser que la matière environnante était composée de vies précédentes et expirées. Dans les nuages passait le souffle humide des bêtes qu'il avait abattues et d'ancêtres d'hommes. Leur poussière et leurs cendres étaient l'engrais du sol qu'il le portait.
Le roi des chamois avait appris à ne pas craindre la foudre. Son espèce s'en abrite quand la tempête tombe sur la montagne comme un rideau métallique. Alors la foudre attaque la roche et lui laisse le blanc de sa morsure. Son groupe s'abritait sous une saillie, le roi non. Il savait que la foudre suit la montagne en descente et se glisse aussi dans le sec des grottes et des cavités. Il avait vu des troupeaux de moutons foudroyer ainsi tous ensemble. L'endroit le plus sûr est à découvert, loin des arbres et des abris. Il restait ainsi, laissant le ciel se déverser sur lui. Au cœur de la bourrasque, il ruminait mieux sa nourriture préférée, les pousses de pain mugot et de genévrier. Le roi savait que la foudre prévient. Avant de s'abattre, elle prépare un champ électrique dans une zone du sol où passe d'abord un courant qui fait vibrer l'air avec un vrombissement de frelons en vol. Le poil se dresse, tout seul, signe qu'on est dans le champ de la foudre. Le roi attendait la friction de l'air électrique sur son corps, l'odeur de métal qui picote sèchement les narines. Alors, il se déplaçait pour sortir de la zone de cible. Pas tout de suite. Le frottement de l'électricité sur son corps faisait gicler les puces hors de sa fourrure. Il se déplaçait à temps vers la hauteur. La foudre s'abattait devant lui, élevant une fumée d'enclume et de forge. Le roi aimait voir la montagne tenir étroitement enlacée l'orage et le vent. L'aigle ne vole pas et l'homme ne grimpe pas. La tempête efface les traces des chamois, emporte leur odeur, rend la pureté à la terre. Le roi restait à découvert jusqu'au dernier grondement. Si la foudre mettait le feu au bois, il descendait à sa rencontre. Avant de brûler, certains arbres lancent au vent leurs graines dans un ultime don de fertilité. Il allait à leur rencontre, croisant en descente les chevreuils et les cerfs qui montaient à l'aveuglette glissant sur les rochers trempés. Loin, dans la vallée, l'eau déversée par les nuages se jetait dans une course chaotique avec les pierres et les troncs. C'était la queue d'arc-en-ciel de l'orage en déroute. Sur sa corne gauche revenait se poser un papillon blanc.
Il s'était endormi, allongé à plat ventre sur les cailloux, le fusil à gauche, la tête sur son bras. Il avait fermé les yeux tandis qu'il regardait un petit nuage débouché tout noir d'une montagne d'en face, à l'ouest. Une tache d'encre, pas plus. C'était le signe de l'arrivée du changement. Elle avait atterri dans sa pupille et il s'était endormi. À l'intérieur des yeux, le sommeil est une tache d'encre qui s'élargit. Le roi des chamois était au-dessus de lui. Il avait l'odeur de l'homme et son huile dégoûtante dans le nez, qu'il rejetait pour ne pas altérer l'air qu'il respirait. C'était un jour parfait, d'horizon limpide entre un temps échu et un autre inconnu. La fatigue du corps s'unissait à l'adieu de la bonne saison. La neige arrivait de l'Occident, encore invisible, et se mêlait à la bonne odeur des femelles en chaleur qu'il avait couvertes pour obéir à la fertilité. Ils se cabraient sur leur dos pour répondre à leur appel. Ils faisaient leur volonté de renouveler la vie et l'espèce, couvant des naissances dans leurs flancs, l'endroit le plus en sûreté et le plus chaud de l'hiver.
Le roi des chamois sut brusquement que c'était le jour. Les animaux vivent dans le présent comme du vin en bouteille prêts à sortir. Les animaux savent le temps à temps, quand il est utile de le savoir. Ils pensaient avant et la ruine de l'homme et ne préparent pas à être prêts. Il regarda en haut pour saluer l'air et se mit à descendre. Les coussinets de ses pattes soulevèrent le précipice sans déplacer le plus petit caillou. Son ongle, partagé entre le troisième et le quatrième doigt, s'ouvrait et s'adaptait aux quelques centimètres d'appui. Ce n'était pas une descente, mais un arpège. Il arriva 10 mètres au-dessus de l'homme allongé, le fusil à son côté. Entre-temps, il s'était réveillé et regardait en bas, là où le troupeau baissait le museau sur la pâture. Le roi des chamois resta immobile, bombant le torse au-dessus du vide, le papillon blanc sur la pointe de sa corne gauche. Une volée d'ailes noires s'abattit du sommet sans un cri. Le roi respira calmement, partagé entre la colère et le dégoût pour l'assassin de sa mère et des siens. L'homme savait prévoir, croiser l'avenir en conjuguant sens et hypothèse, son jeu préféré. Mais l'homme ne comprend rien au présent. Le présent était le roi au-dessus de lui. L'homme est un dos facile à piétiner. En sautant sur lui, il pouvait l'expédier tout en bas. Le roi pesait aussi lourd que l'homme. On n'en avait jamais vu de cette taille. La barbe de son dos se redressa en signe de combat. Il agita sa corne en l'air pour libérer le papillon. Il tapa sur le rocher de l'ongle de son sabot. Un bruit pour que l'homme se retourne. Il ne le voulait pas de dos, mais de face. L'homme, tel un serpent, se retourna vers son fusil, juste à temps pour voir le roi des chamois se précipiter sur lui en deux bonds. Il était force, furie et grâce déchaînée. Un fracas de cris et une foule d'ailes s'élevèrent dans la montagne. Les sabots antérieurs effleurèrent le cou de l'homme. Les postérieurs firent voler son chapeau. Le roi avait sauté sur lui en l'effleurant sans une égratignure et il volait tout en bas vers le troupeau qui avait dressé oreilles et museaux.
C'était le vent vêtu de pattes et de cornes. C'était le vent qui déplace les nuages et balaye les étoiles. S'il avait été debout, l'homme se serait jeté par terre pour se retenir. Mais déjà au sol, s'agripper aux pierres ne lui servait à rien. S'il tombait sur sa poitrine, il le défoncerait avec ses pattes, l'entraînant jusqu'en bas. Le roi avait sauté sur lui sans le toucher. Il lui avait coupé le souffle et le soleil, le temps de se sentir perdu et de se retrouver indemne. Il vola en piqué dans la pente, ses ongles cliquetaient sur les pierres en lançant des étincelles, tandis que l'homme épaulait son arme du côté gauche et le suivait de son écran de mire. De petites avalanches crépitaient à la suite du roi, une traîne blanche. De son œil ouvert, il le voyait gicler, insaisissable, déjà hors de portée. Le roi avait gagné encore une fois. Le troupeau voyait courir vers eux leur roi comme une avalanche, en plein jour, au soleil. Ils ne pouvaient pas voir l'homme. Tous les chamois s'arrêtèrent, là où ils étaient pour regarder cette singulière nouveauté de leur maître des tempêtes, sorti à découvert à leur rencontre. Le roi ne les rejoignit pas. Il s'arrêta soudain, se cabra sur ses pattes de devant et revint en arrière. Il escalada une pierre pointue, plantée sur un tas de rochers suspendus dans le vide, et il resta là. C'était un jour parfait, il ne se battrait plus contre aucun de ses fils. Il ne devait pas attendre l'hiver pour mourir.
Il attendit là, sans bouger, bombant le torse, la balle de 11 grammes qui traversa son cœur de haut en bas. Il mourut. Avant d'entendre le fracas de la détonation, un coup de marteau sur la tôle du ciel. Il tomba du haut de la pierre et roula vers les chamois. L'homme vit alors une chose jamais vue jusque-là. Le troupeau ne se dispersa pas en s'enfuyant. Il fit lentement le mouvement inverse. D'abord les femelles, puis les mâles, puis les petits nés au printemps, montèrent vers lui à la rencontre du roi abattu. Un par un, ils penchèrent leurs museaux sur lui sans une pensée pour l'homme aux aguets. Ils touchèrent de leurs cornes, d'un léger coup, le dos roux et épais de leur père à tous. Les femelles donnèrent deux coups. Les petits frottèrent timidement leurs premiers centimètres sur le manteau hivernal déjà sombre de leur patriarche. Rien n'était plus important pour eux que cet adieu, l'hommage rendu au plus magnifique des chamois qui n'eût jamais existé. L'homme regardait, l'arme encore sur l'épaule, le corps sur les coudes. Il baissa son fusil. La bête l'avait épargné, lui non. Il n'avait rien compris de ce présent qui était déjà perdu. C'est à ce moment-là que la chasse prit fin pour lui aussi. Il ne tirerait plus jamais sur d'autres animaux. Le présent est la seule connaissance qui est utile. L'homme ne sait pas vivre dans le présent. Il se leva et descendit lentement vers la bête tuée. Basse, au-dessus de lui, une foule d'ailes attendait, tandis que venait à sa rencontre de l'Occident le front de la neige, précédé par une tache de nuages noirs. L'homme arriva près du roi. Le troupeau était encore là et regardait. La victoire la plus attendue était la sœur jumelle d'une défaite qu'il n'avait encore jamais connue. Il méprisa l'instinct qui l'avait poussé à ajuster son tir. Un crachat monta dans sa gorge et de l'eau dans son nez, tandis que ses yeux s'embuaient. Voleur de vie insoumise, souveraine laissée sans surveillance sous le soleil du maître de tout. C'était peut-être à lui qu'en revenait la garde, lui qui devenait le voleur. C'était à lui de défendre. Il compta les anneaux des cornes, les années accumulées en cercle. Elles avaient plus de valeur que les siennes. Il avait tué un ancien. Un élancement à l'épaule gauche lui rappela le recul.
Il était à genoux au-dessus du roi des chamois qui regardait dans le lointain, au-delà de lui, de ses yeux habitués au ciel. L'homme se retourna pour regarder dans cette direction. Il ne vit que des ailes noires attendant le repas des viscères. Il leur obéit, releva ses manches et ouvrit le ventre du chamois avec son couteau. Il creusa dans la tanière de la vie et la répandit toute chaude et fumante, le cœur en dernier. Son geste répété des centaines de fois couvrit de sang son bras jusqu'au coude. Il décida de ne pas le laisser là et de ne prendre que la barbe dorsale et les cornes. Même si la chair était inutilisable, il ne voulut pas la laisser au carnage des ailes noires. Seuls les viscères leur revenaient. Le roi des chamois ne devait pas finir les yeux picorés par des croassements. Il décida de le charger sur son dos et de l'emporter quelque part pour l'enterrer. Après avoir pris son trophée, il ne tirerait plus. Il tenta de soulever la bête, jamais une aussi lourde. À genoux, il serra d'abord les deux pattes postérieures et les posa sur une épaule, puis il essaya de lancer le reste du corps sur son dos. Deux coups violents furent nécessaires pour charger la bête. Les pattes pendantes sur sa poitrine. Il prit son fusil et se mit à descendre à pas courts, le souffle écrasé. Le troupeau regardait sans bouger. Les oiseaux étaient suspendus en vol, les ailes immobiles. Il tourna et ne fut plus en vue entre les rochers et les pins mugaux. La tête magnifique du roi pendait sur une de ses épaules et oscillait.
Une cloche sonna au milieu des pas lourds, celle de midi, mais ses coups se perdirent dans l'air. Il s'arrêta, il haletait. Il resta debout pour voir s'il arrivait à reprendre son souffle ou bien s'il devait poser la bête pour récupérer ses forces. Il devait atteindre un névé au nord, où le chamois se conserverait bien. Il monterait avec une pelle pour creuser sa fosse. Il resta debout, la bête sur le dos, pour sentir si son corps se ressaisissait. Un papillon blanc, voilà à sa rencontre, et autour de lui. Il dansa devant les yeux de l'homme dont les paupières s'alourdirent. Les hottes pleines de bois, les animaux portés sur son dos, les prises tenues avec les dernières phalanges de ses doigts, le poids des années sauvages lui apporta sa note sur les ailes d'un papillon blanc. Il regarda le vol en zigzag qui tournait autour de lui. De son épaule pendait la tête renversée du chamois. Le vol alla se poser sur la corne gauche. Cette fois-ci, il ne put le chasser. Ce fut la plume ajoutée au poids des ans, celle qui l'anéantit. Sa respiration s'assombrit, ses jambes se durcirent, le battement des ailes et le battement du sang s'arrêtèrent en même temps. Le poids du papillon avait fini sur son cœur, vide comme un poing fermé. Il s'effondra, le chamois sur le dos, face contre terre.
Un bûcheron les trouva là, au printemps, l'un sur l'autre, après un hiver de neige fantastique. Ils étaient encastrés au point de ne pouvoir être séparés qu'à la hache. Il les enterra ensemble. Sur la corne gauche du chamois, la glace avait laissé l'empreinte d'un papillon blanc.
Bravo, hein. Bravo pour eux.
Ouais. Alors, on a éliminé quelques passages concernant la femme qu'il fréquente. Et parce qu'on voulait, de toute façon, on n'avait pas le temps, et on voulait concentrer vraiment. Enfin, disons que ce soit vraiment un tête à tête, d'égal à égal, et qu'il n'y ait pas de. Qu'on ne soit pas dérangé par quelqu'un d'autre, quoi. C'est vraiment l'homme
et le chamois,
l'égal à égal.
Alors, on ne peut vous conseiller que d'acheter
alors là,
pour avoir le texte en entier, parce que c'est vraiment très très beau.
Claude, tu peux allumer, s'il te plaît. C'est ça. Ah bah oui, j'aurais pu y penser. Bon, ça fait, c'est très beau. Hein. Ouais, oui, on a
vu.
Oui, bon, oui. C'est Françoise qui a choisi au point de départ Eri De Luca. Voilà. Alors, vous avez vu cette femme, cette photo extraordinaire avec la chevelure étalée. Ça vous dit quelque chose, le photographe? C'est quelqu'un d'extrêmement connu. Non, s'il te plaît, on peut. Ah bon, voilà. Ah oui, vous avez raison. C'est quelqu'un d'extrêmement connu, mais qui est bon, qui a disparu depuis longtemps. Très connu, un grand artiste. Remarquez, moi, on le connaît très bien. C'est Man Ray.
Ah, Man Ray. Oui, oui, oui.
Voilà. Il y a tellement. Et ça, voilà, il y avait.
Voilà.
Merci beaucoup. Ce fut un
Ah, merci à vous de nous avoir écoutés. C'est un plaisir. C'est un plaisir de sentir aussi qu'on est entendu. Et que le courant passe. Écoutez.